Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer.
Pour ce deuxième épisode des gens qui doutent, j'ai rencontré une personne que j'admire éperdument, c'est Eva Bester. Elle est journaliste, elle a travaillé pour France Culture et Arte notamment, et là depuis plusieurs années. Vous pouvez l'entendre chaque dimanche matin sur France Inter dans son émission Remède à la mélancolie, une émission dans laquelle elle reçoit des artistes, des philosophes, des cuisiniers, plein de gens très très différents qui lui donnent leur remède contre le spleen, que ce soit des livres, des films, des chansons, des mantras, plein de petites choses qui leur permettent de se sentir mieux. Et Eva est une des raisons qui m'ont poussée à créer ce podcast, globalement parce qu'il me fallait une excuse pour qu'on discute et qu'on devienne meilleurs amis pour la vie. C'est pas encore le cas, mais j'y travaille. Mais en tout cas, j'ai passé un moment absolument délicieux avec elle. On s'est retrouvés dans la brasserie au Living Room à Boulogne. On a parlé de choses parfois assez sombres, de mélancolie bien sûr, de fuite, de la difficulté de l'existence, d'ego. Mais on a aussi discuté de choses beaucoup plus légères, de notre passion commune pour l'ASMR, d'animaux mignons et moins mignons, de karaté. On a beaucoup ri. Trop parfois, je passais un tellement bon moment que j'ai rigolé beaucoup trop souvent et beaucoup trop fort, j'en suis désolée. On a ouvert plein de parenthèses qu'on a oublié de fermer aussi, on a commencé plein de phrases qu'on n'a jamais terminées, mais j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Est-ce que tu veux bien me parler ?
Ceci est un essai de voix.
C'est un très bel essai.
C'est vrai ?
Il est très concluant en plus.
Est-ce que tu poses des questions spécifiques quand tu fais des essais de voix ? Parce que moi j'ai une question trop nulle que je pose toujours la même.
Quelle est ta blessure d'enfance?
Non, moi je dis qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner?
Ah ouais.
T'as ta blessure d'enfance, le mec se tire une balle avant l'émission quoi.
Je me suis demandé si j'allais commencer la question par, enfin l'interview par quel rapport entretiens-tu avec la mélancolie, mais t'as dû répondre tellement, 18 000 fois.
C'est possible.
Du coup, comment tu fais la différence entre la mélancolie et la tristesse?
Alors, en fait, beaucoup de gens font la différence dans l'émission.
Ouais.
Je suis pas sûre, moi, de faire partie des gens qui font la différence. Pour moi, la mélancolie, c'est la tristesse. C'est simplement, ça peut être une tristesse sans objet concret. C'est comme un deuil sans objet. Si quelqu'un meurt et qu'on est triste, on a une raison concrète. Mmh. La mélancolie, ça peut être un accès de tristesse inexplicable. Ou des choses vraiment auxquelles on pense pas du tout, qui ressurgissent d'un passé enfoui, même d'avant la naissance, je sais pas, et qui nous enrobent et qui nous atterrent, mais littéralement, c'est-à-dire qui nous mettent à terre. Et en ça, on peut le différencier de la tristesse, mais pour moi, c'est toujours lié. Il y a des gens qui disent dans l'émission, moi j'aime bien la mélancolie, pour moi c'est pas du tout de la tristesse, la mélancolie c'est agréable, je m'en sers pour créer. Moi la mélancolie, je m'en sers pas du tout pour créer, c'est jamais agréable. J'ai envie de fuir comme... Est-ce que tu connaissais le dessin animé Pépé le putois ?
Non.
Bon bah c'était un putois qui était amoureux d'un chat noir, d'une femelle qui avait sans faire exprès, avait une ligne de peinture blanche sur le pelage, donc il pensait que c'était un putois aussi, et dans tous les épisodes il lui court après.
Ce qui est absolument tragique.
Oui, bah pour elle c'est tragique, et elle essaye de partir en courant, elle en peut plus, elle a l'air vraiment éperdue tout le temps. Je crois que c'est pas le bon mot, éperdue, pour ce que je veux dire. Et voilà, je m'identifie un peu à ce chat, avec la mélancolie.
Ok. Et du coup, c'est un truc que tu cherches à fuir, mais t'en as fait ta profession.
J'en ai fait ma profession, mais attention, je me suis pas dit, tiens, on va s'enfoncer dedans et se complaire dedans. Je me suis dit au contraire, en fait, je la fuis tellement maladivement Ça me terrorise parce que je sais que c'est comme, tu vois, l'abîme qui te guette et qui est tout le temps prêt à te happer. Dès que tu fais pas un effort pour aller vers le haut, on t'attrape le pied, on te le déchiquette et tu meurs. Mais le problème, c'est que tu restes en vie. Mais t'as l'impression de mourir, donc tu restes dans un purgatoire sans pouvoir passer de l'autre côté. Et ça, je me suis dit, bon, ça arrive assez souvent. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs composantes. Quand on les combinait ensemble, on arrivait à mettre la mélancolie un peu à distance. Et j'en ai fait une émission.
Je suis contente qu'on ait commencé l'interview par du positif.
Oui, tu peux compter sur moi. On se tutoie, on a hésité avant l'émission, ouais. On ne savait pas. Je t'ai dit que j'étais une coincée du 19e siècle et que je ne savais pas s'il fallait se tutoyer ou se vous voyez.
Moi aussi, je suis une coincée, mais j'ai 12 ans.
T'as 12 ans ?
Ouais.
Moi, 8, alors c'est à toi de me guider.
Ah, ok. Ouh là là, on est dans la merde. quand t'as proposé Remède à la mélancolie à France Inter, t'avais mis une autre émission avec ?
Ouais, j'avais préparé pendant très longtemps une émission sur la nuit, que je voulais faire la nuit. Une émission que personne n'aurait écoutée. Et puis Remède à la mélancolie que j'ai rédigé en 10 minutes parce que c'était tellement... c'était ce que je faisais au quotidien en fait, donc c'était assez facile pour moi de rédiger ça. Et tout de suite ça a été accepté, ce qui n'arrive jamais en radio. Je sais pas si gens vont écouter qui veulent faire de la radio. Ça n'arrive jamais, on vous dit jamais oui du premier coup, jamais.
T'as des fois des regrets que ce soit pas l'autre qui soit passé ?
Non. Non, parce que... Je pense qu'être à la maison de la radio la nuit, je pense que ça m'aurait déprimée au bout d'un moment.
Déjà la journée.
Oui, déjà la journée, exactement.
T'as jamais eu peur de commencer à t'y complaire si c'était ton job ? T'as jamais eu peur que ça se retourne un peu et d'avoir le...
Alors me complaire dans quoi ? Me complaire...
Dans la mélancolie, pardon.
Bah non, puisque l'émission pour moi c'est vraiment le contraire en fait.
Et c'est... t'as jamais eu, à force d'être tellement dedans, c'est...
Oui, si, parfois je me dis que... On doit me coller sans doute l'étiquette ouais. « Ah bah elle, c'est la mélancolie ». Et parfois, ça m'ennuie un peu. C'est vrai que parfois, j'aimerais bien... je suis pas que ça. Donc, et surtout, j'aime bien rigoler tout le temps. Et je suis pas un vampire gothique qui se balade avec une écharpe ou dans un tableau de Caspar Friedrich en contemplant les vagues. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais ça m'arrive souvent d'être mélancolique et c'est très pénible. Ça m'arrive quand je suis seule, parce que je suis assez polie en public. Et c'est horrible, quoi. Enfin...
Dans ta tête, ça a l'air absolument effroyable et fantastique en même temps. Parce que d'un côté, y a tout ce côté mélancolique et tout ce que tu viens de dire concrètement. Et puis d'un autre côté, quand je t'imagine seule, je suis sûre, genre, il y a des animaux qui viennent chanter avec toi, tu vois.
C'est comme... vrai ?
Ouais.
Tu les vois ?
Mais non. Ça, c'est d'autres problèmes. Non, mais tu vois, genre Blanche-Neige style, tu vois.
Ah, Blanche-Neige, carrément.
Mais ouais, mais tu vois, les...
Moi, j'imaginais plus Donnie Darko.
Ah, j'ai jamais...
C'est un super film, avec un lapin très effrayant, géant. C'est marrant. Alors, je sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou pour, en fait, une des raisons qui vont faire que je vais enfin réussir mon suicide à la sortie de cette émission. Parce que Blanche-Neige, quand même, ça va quand même avec un côté gnangnan, un peu bécasse, un peu... Alors que l'émission... Si
non, mais je veux dire, dans ta façon des fois d'être émerveillée de tout, tu vois.
C'est vrai.
Et il y a un côté un peu...
Je comprends.
Ouais, voir de la beauté dans plein de choses.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, en fait, à la base, j'avais écrit la question sous la forme « Est-ce que ta vie est aussi fantastique qu'elle a l'air d'être ?»
Pas du tout.
Mais dans le sens où, dans le bouquin « Remède à la mélancolie », tu dis que tu adores te mettre sous les tables quand la nappe va jusqu'au sol et qu'il y a une moquette. Et je me dis, mais est-ce que ça t'arrive souvent ?
Non. Je dois confesser que non, et que ça c'était en fait quelque chose que je faisais quand j'étais petite chez mon père. En fait, j'allais en cachette dans sa chambre, il y avait une table avec une nappe sur de la vieille moquette pourrie, et donc je me cachais sous la table avec une longue nappe, donc on ne me voyait pas, et je l'écoutais ronfler, et ça me rassurait.
C'est creepy.
Sans doute. Mais je me disais, il est toujours en vie, et ça me rassurait. Et donc j'ai mis ça dans le livre, en fait c'était un peu idiot de le mettre parce que je ne l'ai pas refait depuis très longtemps, mais c'est vrai que quand je pense à cet endroit, quand je pense à cet espace-temps, tu sais parfois on te dit dans les trucs, pensez à un souvenir heureux, pensez à un lieu où vous vous sentiez bien, moi il n'y a pas beaucoup de lieux où je me suis sentie bien, alors j'ai ce truc-là où je sais que j'étais bien sur cette moquette, sur fond de ronflement.
Ok, mais t'arrives quand même à être aussi, enfin genre tu t'émerveilles réellement de autant de choses que t'en as l'air ?
Oui. Ah, c'est pas une posture.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça ma question suivante. C'est est-ce que tu joues un minimum un personnage en radio ou pas du tout ?
Non, je crois pas du tout. Après, évidemment, ma réponse est biaisée puisque j'habite à l'intérieur de moi. Donc
ça se passe comment?
Très mal. Mais je te dirais non, pas du tout. Non, il n'y a aucune posture, justement. Et... enfin, en tout cas, tous mes amis, j'ai peu d'amis, mais j'ai des amis qui comptent beaucoup pour moi.
Des animaux qui chantent.
Des animaux qui chantent et des amis humains parfois. Et ils me disent que c'est incroyable parce que je suis la même personne à l'antenne et hors antenne. Mais pour ce qui est de l'émerveillement, ça, c'est plutôt une chance. J'arrive à m'émerveiller vraiment facilement de n'importe quoi. Mais je pense que ça va de pair avec le fait que je sois très mélancolique, vraiment. Et que donc, à chaque seconde, en fait, je cherche une porte de sortie, quoi. Donc, je veux rire de n'importe quoi, c'est par là. Merci de me l'indiquer. Je cherche une façon de qu'est-ce qui pourrait être tourné en dérision, qu'est-ce qui pourrait être drôle, qu'est-ce qui pourrait être beau, qu'est-ce qui pourrait m'enrichir intellectuellement, m'apporter quelque chose. Et en fait, quand on essaie ça, on trouve vraiment facilement. Mais je peux vraiment m'émerveiller devant la démarche d'un chien dans la rue, devant un mot comme waffle. C'est gaufre en anglais.
Très...
je trouve ça hyper drôle. Ouais. Et waffle, ça fait ma joie depuis plus de 30 ans.
Est-ce que c'est un slogan ou est-ce qu'on a déjà proposé de te le racheter?
Non, mais je n'hésitais pas.
C'est, j'ai l'impression que Remède à la mélancolie est totalement un ovni dans la grille, enfin dans n'importe quelle grille radio en 2019 en fait, parce que ça ne correspond à aucun code. Moi j'ai découvert l'émission en 2016 je pense, je ne sais pas ce que j'ai fait tout ce temps. Et la première truc que je me suis dit c'est « Ah, c'est quelqu'un qui commence la radio », alors que pas du tout, parce que t'as pas tous les codes hyper chiants que les gens, qu'on inculque aux gens qui font de la radio. Et comment t'as réussi à garder cet aspect hyper spontané? Est-ce que c'est un truc que tu t'es forcé à faire ou est-ce que justement c'est parce que t'en avais rien à faire?
Je suis pas sûre. J'aimerais dire j'en avais rien à faire et je passais au-dessus de tout et tout ça, mais c'est pas vrai du tout. J'avais peur, j'ai toujours peur quand j'ai une émission. J'ai pas les codes parce que déjà j'écoute des vieilles émissions, surtout. J'écoute pas vraiment trop la radio aujourd'hui. J'écoute pas vraiment les programmes, mais je sais que heureusement personne de ma chaîne n'écoutera ce podcast. Mais donc j'ai pas les codes. Il est 20h et tout de suite on se retrouve après la pub. Non, j'ai pas ça. Ou voilà qui est dit.
Ah, mais personne dit ça.
Si.
Oh.
Moi je ne citerai pas de nom, mais je connais quelqu'un pour qui j'ai travaillé.
Moi ce qui me marquait, c'est les annonces de morceaux. Tu termines toujours sur une note basse, alors que moi, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est tu termines avec de l'énergie et tout. Et toi, tu le faisais jamais. J'étais là, putain, mais c'est trop bien, ça veut dire qu'on peut faire ça.
Ou alors, ça veut dire que je suis totalement nulle en radio et que tu es en train de me faire rendre compte.
Mais non, parce que c'est trop bien de voir...
Bonjour à tous. J'ai un ton, en fait, qui n'a aucun naturel. Et...
j'ai l'impression que tous mes podcasts, ils finissent par moi qui insulte les gens.
C'est vrai?
Oui, mais... Oui.
Je reste quand même.
Top, c'est gentil. j'ai lu que quand t'as commencé à faire Remède à la mélancolie, t'avais tellement peur de manquer de vocabulaire que tu t'es fait des listes.
Oui, parce que je me suis dit que le piège avec une émission sur un thème comme la mélancolie, c'était la redondance. C'est-à-dire qu'à chaque émission, on va parler de mélancolie. Donc si je connais pas un minimum de vocabulaire dans ce domaine, je vais dire tout le temps la même chose. Et ça va être très lassant pour les auditeurs. Et pour moi, après. Donc oui, j'ai fait des listes de vocabulaire de tout le domaine de la mélancolie, de la tristesse, autant les adjectifs que les noms, les nuances, tout ça.
Il y a d'autres trucs que tu as dû préparer spécifiquement pour l'émission? Des choses où tu avais l'impression qu'il te fallait encore du background pour le faire?
Mais en fait, j'ai toujours l'impression qu'il me faut du background pour le faire. Et je pense que ce sera toute la vie comme ça, mais... Non, en fait, je prépare tellement chaque émission que, par exemple, ça doit être la 7e ou 8e saison, enfin, je sais plus, je compte plus, mais je travaille toujours autant. C'est-à-dire, les gens me disent, c'est bon, maintenant t'as l'habitude, tu travailles moins qu'avant. Mais non, en fait, je travaille toujours autant. Je peux pas moins travailler. J'y arrive pas, et c'est à la fois un peu bête de ma part, et en même temps, je trouve que c'est le prix à payer pour bien accueillir l'invité et avoir justement cette liberté et cette spontanéité dans l'émission. C'est parce que j'ai tout préparé avant que même si on n'aborde pas le sujet, en fait, je peux rebondir sur ce que va dire l'invité.
Se tenir occupé, se fixer des buts précis, se forcer à être dans l'action sont des mouvements salutaires pour les tempéraments spleenesques. Qu'est-ce que tu fuis ?
J'écris spleenesque ?
Oh oui.
C'est pas spleenétique ?
Ah, c'est l'autocorrect alors.
Peut-être. Qu'est-ce que je fuis ? Tout ? L'existence, la conscience de soi, les démons intérieurs que tout le monde a. Il y a plusieurs façons de fuir, et la plupart du temps, les paradis artificiels, c'est ce qu'il y a de plus efficace à court terme. Et j'ai flâné un peu par là.
C'est si joliment dit.
J'ai totalement coupé toute fréquentation de ce côté-là. Parce que j'étais obligée. Parce que justement, je voulais trop ne pas être là, en fait. Là, on dirait une suicidaire qui parle, mais c'est... Enfin, le suicide, je pense que c'est déjà une idée qui a effleuré tout le monde. Mmh. Ça veut pas dire qu'on passera à l'acte. Là, je suis en train de plomber l'ambiance. Ce que je voulais dire, c'est que... Je pense que j'ai essayé de toutes les façons de fuir cette mélancolie et ces démons intérieurs que tout le monde a. Et donc, j'ai essayé les choses les plus efficaces et les plus spectaculaires, au début spectaculaires pour soi. C'est-à-dire qu'on a mal, on prend quelque chose, on n'a plus mal. Alors attention, on prend quelque chose, on va croire que j'étais une droguée dure avec du crack, pas du tout. Hein. Mais je veux dire, par exemple, l'alcool...
Des fleurs de Bac.
Les fleurs de Bac, une overdose de fleurs de Bac dont je ne me suis pas remise. Non, mais oui, je sais pas, les anxiolytiques, les médicaments, l'alcool, tout ça. Et c'est vrai que c'est facile, et j'y pense encore, ça me manque beaucoup. Mais, parce que maintenant, je ressens tout. C'est ça qui est horrible quand on est conscient et clean. C'est qu'on ressent... Chaque état d'âme, chaque émotion, quand quelqu'un vous parle, on a peur, on transpire des dessous de bras, on devient tout rouge, on tremble, on est nul quoi. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je dis on parce que j'ai l'espoir de pas être seule à être encore, à avoir 14 ans quand je parle aux gens. Mais ça, tout m'impressionne en fait. Ça fait peur, la sociabilité, je sais pas, non, enfin, on arrive quelque part, quelqu'un vous parle et c'est une autre entité et il y a une interférence.
Tu préfères les relations sociales qui sont hyper cadrées, comme les interviews, par exemple ?
Non. Je pense que dans l'interview radio, on a le meilleur de chaque être. Dans mon émission, je pense qu'il y a le meilleur de moi. Et qu'en dehors de l'émission, c'est mon meilleur, ce que je fais dans l'émission. Et je suis forcément beaucoup plus médiocre dans la vie. Et mes invités, je pense que j'ai le meilleur d'eux, parce qu'en fait, ils viennent, ils me parlent que de choses passionnantes, d'art, de culture, de chefs-d'œuvre, de classiques, parce que c'est pas de promo, pas d'actu. Et comme on est enregistré, on peut pas s'insulter ou être odieux ou manquer d'égards. Je suis assez sensible aux égards. Et donc je pense que c'est le meilleur de l'être humain à la radio en général. Et une fois j'avais écrit un texte sur ce que c'était pour moi la radio, et pour moi c'était comme un salon... comme les salons des siècles passés, mais un salon démocratique vraiment où on démocratise la culture et tout le monde a accès à ce salon. Et j'adore en fait cet espace, je trouve ça magnifique. Et j'ai oublié totalement ta question.
Moi aussi, en fait il y a tellement de choses où je me dis, putain, là, rappelle-toi de ça. Et à chaque fois j'ai tellement de points qui s'accumulent que je me dis, mon dieu, je ne sais plus dans quelle heure de prendre les choses.
Je vais boire en essayant de faire beaucoup de bruit dans le micro. Ouais.
Je mettrai une version ASMR du podcast.
J'adore l'ASMR.
Putain, moi aussi. Et quand je dis ça, les gens, ils comprennent pas, mais...
Je sais, moi non plus.
C'est tellement... J'adore l'unboxing aussi.
Je connais pas.
C'est les gens qui déballent des choses.
Ça fait partie de l'ASMR.
Oui, mais juste... Même si le son n'est pas très bon, je trouve ça fantastique, juste parce que j'adore voir les gens qui sont très concentrés sur quelque chose.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est tellement apaisant.
Moi, j'adore les ongles qui font comme ça, tap sur des trucs.
Ma question... Je ne m'appelle plus.
Non, mais là, en fait, en plus, j'ai un peu honte parce que je viens de dire, genre, ouais, les paradis artificiels, j'y suis allée. J'ai l'impression d'être un vieux poète maudit qui fait, ouais, j'ai roulé ma bosse. Moi aussi, je me suis détruite.
Pas du tout. Baroudée. Ouais.
Alors, ça va, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, je suis pas les rockstars qui se roulent dans je sais pas quoi, hein, pas du tout. Mais faut couper cette phrase.
Tu veux que je coupe un truc, vraiment?
Non, je sais pas, je suis en train de m'enfoncer dans mon truc en fait et je suis en train de mourir de honte, mais c'est pas grave.
C'est vrai.
C'est normal, j'assume. C'est parce que je suis pudique et que j'ai dit n'importe quoi. Puis dès qu'on parle de soi, on dit des bêtises.
Moi, je pleure.
C'est vrai. Tu vas pleurer pendant l'émission ?
Mais non, je parle, c'est toi qui parles.
Ah oui, c'est vrai. Je vais pleurer pendant l'émission peut-être.
pleurer.
Bah, tu veux bibo.
Si tu veux, ce sera de l'ASMR peut-être.
Ouais.
T'as déjà vu de l'ASMR de Jean-Guy?
Non, mais j'ai cherché déjà ASMR avec des chiens. Parce que j'adore les chiens.
L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo hier de l'ASMR avec un cheval qui mange.
Oh.
Je déteste les chevaux, mais le bruit d'un cheval qui mange.
Oui,
qui
c'est mange. Assez fantastique.
C'est assez fantastique. On était plus ou moins à toi ayant peur de tout.
Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je travaille sur ça tous les jours, j'en peux plus, quoi. C'est presque pathétique, en fait, c'est que j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux faire, vraiment tout, et que ça progresse pas vraiment. Et je sais qu'on est dans un siècle où on se dit toujours « Ah, il faut être heureux » et tout ça, et pas du tout, c'est pas vrai, en fait. Je pense que le mot, le mal principal vient justement du fait qu'on pense qu'on doit être heureux et que le bonheur, ça existe, et que la douleur, c'est quelque chose d'évitable, alors que la douleur est inhérente à la condition humaine. On rejette ça totalement. Mais malgré tout, c'est pas non plus normal, même si j'aime pas le mot normal, parce que je pense qu'il y a pas de normalité, mais c'est pas terrible non plus d'être aussi effrayé par autant de choses. Moi, j'ai vraiment peur. Je me sens comme dans la guerre des mondes, vraiment presque en permanence. Presque en permanence, parce que j'ai pas envie de dire en permanence, c'est pas vrai. Il y a des moments où je me sens super bien.
Qu'est-ce qui te fait te sentir super bien? À part l'art?
À part l'art, c'est compliqué. Déjà, la lecture, ça en fait partie. Je me sens bien quand je lis. Je me sens bien quand je suis avec certains proches avec qui on rit. J'ai de la chance, je suis entourée de peu de gens, mais de gens très drôles. Ça, c'est vraiment une chance. Regarder des chiens dans la rue, je vais vraiment passer pour une...
T'as un truc avec
idiote.
Les chiens.
Vraiment, c'est un de mes plus grands remèdes à la mélancolie, les chiens.
T'as un chien ?
J'ai eu un chien et je me suis jamais remise de sa mort, donc je veux pas d'autres chiens. Parce que j'ai la flemme à l'avance d'être triste quand il va mourir. Mais j'adore regarder les autres chiens. Je les trouve très rigolos.
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui détestent les chats ?
Non, je trouve que les chats sont très prétentieux. Et vraiment, ils se la racontent par rapport aux chiens, qui sont faciles d'accès.
Clairement pas assez conscients de la vie autour d'eux pour se permettre d'être prétentieux, là.
Les chats, ils ont des nœuds papillons en soie et ils sont miaou dans une porte cochère en nous espionnant et avec de l'arsenic.
Ok. Et puis après, tu trouves ça bizarre quand je te dis que j'imagine des animaux qui chantent avec toi.
Mais parce que c'est vrai. Là, il y a Wilfried et Alfrouch, un petit poney.
J'ai perdu le fil. Je t'avoue, j'ai perdu le fil.
Non, moi, je déteste pas les chats, en tout cas. J'aime bien les chats. J'aime pas leur habitude de se mettre comme un coussin sur nos genoux en disant on va être amis. Et puis quand on est content de l'attention qu'ils nous portent, ils nous enfoncent leurs griffes comme ça dans les cuisses. Je trouve ça pervers.
Quand tu prépares une interview pour Remède à la mélancolie, tu passes une semaine complète avec tout... Enfin, avec l'invité, avec tous ses remèdes. En pratique, parce que c'est un truc qui m'intéresse pas mal, étant donné que une des deux raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est que j'étais très nulle en interview. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, fais-le plus souvent.
Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne idée, mais je te crois pas du tout que t'es tenue en interview.
Parce que j'ai tendance à ne pas savoir me détacher de mes questions, et du coup, c'est pas fluide.
Ouais,
bah,
ça, c'est le premier truc, c'est difficile pour tout le monde.
Voilà, donc voilà, peut-être tu vas passer un très mauvais moment, mais dans 2 ans, peut-être je serai douée, tu vois.
Non, mais je pense que t'es douée.
Ah.
Ça faut, si tu le laisses dans le podcast, les gens vont penser que t'es prétentieuse parce que
t'as... Mais je le suis. Dans tous les autres épisodes, alors, ils le verront, donc
super,
parfait. T'inquiète. Je les mettrai même en accroche.
Oui, c'est ça. Avec un énorme titre en fluo sur le site.
Eva Bester, 2 points, tu es très douée.
Oui, comme les critiques de films.
Ah,
tu sais, mais quand un film est nul et qu'il n'y a pas eu de vrais journaux qui ont fait des critiques super, ils mettent des blogueurs. Ils mettent époustouflant. Michel
comme une blogueuse du journaliste, du journalisme.
Non, mais je parle. Non, mais genre vraiment un mec obscur qui, je sais pas, qui parle de série Z et qui fait des tutoriels sur comment, je sais pas comment customiser une casquette. Et si lui a dit que c'était un chef-d'œuvre, il aura marqué un chef-d'œuvre en énorme dans le métro sur l'affiche.
Ouais.
Alors que peut-être que si je connaissais ce type, on s'entendrait hyper bien et j'aurais une totale confiance en ses goûts. Mais pourquoi il est dans le métro sur l'affiche ? Quelle autorité ?
Est-ce que t'es en train de te semi-excuser ?
Ouais.
Parce que t'as insulté quelqu'un qui n'existe pas.
C'est ça. J'ai trop d'empathie, surtout pour les gens qui n'existent pas.
Est-ce que t'as plus d'empathie pour les gens de la fiction que pour les gens réels ?
Non. Je suis hyper mal pour tous les personnages d'Émile Zola, quoi qu'il arrive.
Et pas les autres ?
Si, aussi les autres, mais vraiment les personnages d'Émile Zola, je pense qu'il faudrait faire un centre psychiatrique pour les recevoir après être passé dans un roman d'Émile Zola. Parce que ce qui leur arrive est vraiment tragique, cruel. Zola, il les prend, il les fait souffrir et il n'y a aucune lueur, jamais, jamais, jamais. Et ça se termine mal, la plupart du temps. Mais pour les... Non, j'ai énormément d'empathie pour les êtres humains en général, c'est même un problème, c'est que j'en ai trop en fait, et c'est... J'aimerais bien parfois être plus... m'en foutre quoi, enfin je veux dire être plus égoïste et que ça me passe un peu au-dessus, que ça coule sur moi, mais en fait ça me contamine un peu quoi. Si quelqu'un est très triste, j'ai envie de lui faire un câlin d'âme et de le...
Un câlin d'âme.
Mais je dis ça, mais attention.
C'est quand tu veux faire un câlin mais que t'aimes pas les contacts physiques.
Sans contact avec le petit liquide pour se désinfecter pendant la période hivernale qui pour moi dure jusqu'à fin août. Non mais attention là, parce que là on dirait que... Je suis quelqu'un de trop sympa qui veut réparer tout le monde, pas du tout.
T'arrives à ne pas aimer les gens?
Évidemment, j'ai de grosses haines, beaucoup de violence en moi aussi. Je suis pas du tout quelqu'un qui va résoudre les problèmes des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et ça me touche énormément. La plupart du temps, ça m'est déjà arrivé de pleurer en recevant des courriers magnifiques d'auditeurs, très très émouvants, très sensibles, qui m'expliquaient à quel point l'émission leur faisait du bien. Et ça, c'est magnifique, vraiment, vraiment. Mais je veux dire, il y a aussi des psychopathes qui nous écrivent et qui font des projections. Et ça me fait peur, en fait. J'aime pas ça, je les déteste.
Je t'imagine chanter avec des animaux.
Non, ça c'était toi et je sais que c'était toi. Mais non, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ses cheveux en disant comme ça, t'auras mon ADN. Il y a des gens qui sont venus, qui m'ont attendu une semaine en bas de la maison de la radio pour me parler et pour genre m'emmener en vacances et tout ça. Enfin, ça fait peur, en fait. J'aime pas ça, je veux dire. Ouais. Et donc non, j'aime pas tout le monde, pas du tout. J'ai autant de bienveillance envers l'humanité que de misanthropie. J'ai peur de tout, donc évidemment de la société, et j'adore les gens à petite dose. La plupart du temps, j'ai besoin d'être seule. Faut vraiment pas croire que la fille gnangnan Blanche-Neige qui présente Remède à la mélancolie, elle est trop sympa et elle va vous faire des confitures.
J'ai pas du tout dit que t'étais gnangnan.
Non, je sais, mais...
Donc tu te calmes.
Je sais pas faire à manger, je vous ferai pas de confitures. Et si j'arrive... Enfin... J'ai pas la solution pour vous, en fait, puisque je l'ai pas pour moi. J'ai pas la solution.
Mais il y a plein de gens qui ont des solutions pour les autres et pas pour eux.
Ouais, ouais, j'ai des solutions pour certains de mes amis, pas pour tout. Je pense qu'on peut pas tout. On peut pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé.
Ah,
attention. Ceci est un aphorisme de Sachette Yogiti.
Qu'est-ce qui t'énerve chez les gens? Qu'est-ce qui te fait les détester, genre, tu te dis?
J'ai du mal avec l'exhibitionnisme et le manque d'égard.
De type
la vulgarité, quelqu'un qui prend toute la place, qui parle que de lui. Par exemple, moi je suis journaliste parce que j'étais curieuse des autres. Je comprends qu'on puisse ne pas être curieux des autres, mais quelqu'un qui arrive dans un endroit et qui prend toute la place, qui parle que de lui, qui pose absolument aucune question aux autres. J'ai toujours du mal avec ce genre-là, avec les gens qui vraiment ne sont absolument pas curieux d'autrui. Et quand je dis la vulgarité, c'est parce que pour moi ça va avec, et le manque d'égard, je crois que ça va avec aussi. Je suis un peu une vieille fachoréac, en fait. J'aime la politesse.
C'est ça, être une fachoréac?
Ouais. J'aime qu'on mette les formes. Ouais, la brutalité, quoi. Je sais pas. Quelqu'un de brutal qui arrive, qui met pas de forme, qui a pas d'égard, qui est super mal poli et qui se croit tout. Qui croit que tout lui est dû. En même temps, ça me surprend plus que ça ne m'énerve. C'est-à-dire, au début, je vais me dire waouh, comment cette personne peut être en dehors de toute honte. Parce que j'imagine que dès qu'on a un peu conscience de soi, on a honte, parce qu'on est ridicule tout le temps.
Tu penses que beaucoup de gens ont conscience d'eux à ce point-là?
Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais. Je pense qu'il suffit de se regarder 2 secondes pour voir qu'on peut pas se prendre au sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est vrai. Tu reçois... Enfin, j'ai jamais vu de commentaires négatifs sur Remède à la mélancolie.
Si, si.
Il y en a?
Ouais. Alors, on a vraiment de la chance avec cette émission, parce que mon équipe et moi, on reçoit vraiment 95% de courriers d'auditeurs enthousiastes. Vraiment, c'est incroyable. C'est presque tout le temps positif. Et il y a 5% de trucs... de gens très énervés, parce que c'est jamais formulé de façon douce. Ça me dérange pas, moi j'ai pas de problème avec les critiques, je les entends et il y a plein de trucs que je pourrais améliorer. Par exemple, je parle trop vite, on me le dit souvent, où il y a plein de choses comme ça. Enfin, je veux dire, on peut me dire votre question n'était pas pertinente ou je sais pas, il y a pas de problème. Mais quand on m'envoie un message très énervé, méchant, aigri, je comprends pas. Enfin, en même temps, s'ils ont pris la peine de le faire, c'est qu'ils étaient vraiment énervés. Mais si, on en a. Parfois, il y a des gens qui disent. Oui, cette bobo parisienne agrégée de philosophie qui fait montre de sa culture.
En fait, alors, tout est faux dans cette phrase, en
tout
plus.
Tout est faux dans cette phrase. J'ai pas les moyens d'habiter à Paris. Je suis autodidacte. J'ai fait une fac d'anglais qui m'a servi à rien à part à prendre du plaisir. Donc vraiment, j'ai vraiment fait mes classes à la radio en préparant les émissions, en allant à la bibliothèque, en lisant, en me documentant. Mais du coup, il y a quand même une part de compliment. Parce que s'il me prend pour une agrégée de philo alors que j'y connais rien, ça me flatte. Mais en plus, le parisianisme... Bah, la maison de la radio est à Paris. Donc, c'est un peu logique qu'on ait souvent des invités qui habitent là, puisqu'on ne peut pas rembourser les billets de train. Donc, ça limite un peu les déplacements. Et donc, oui, c'est vrai, en statistique, ça se passe plus souvent à Paris. Mais vraiment, moi, j'essaye systématiquement dans l'émission de jamais ancrer ça que dans la capitale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je refuse toujours de parler d'exposition ou de choses comme ça. Parce que je veux que tout ce dont on parle dans l'émission, je veux que n'importe qui, n'importe où dans le monde, puisse s'en emparer immédiatement. Que ce soit un livre, un film, je veux vraiment que n'importe qui ne se sente pas seul ou... Ouais, c'est important en fait.
C'est ce que tu disais, le salon ouvert à tout le monde.
Oui.
Ouais, ok.
Alors que dès qu'on parle d'une expo ou d'une pièce de théâtre, on dit oui, ça se joue sur les grands boulevards, gna gna. Et alors, la plupart des gens quand même n'habitent pas à Paris, hein, statistiquement. Et ils pourront pas aller le voir, quoi. Alors ils iront peut-être en prenant le train et tout ça, mais je veux dire, ça coûte cher, je sais pas.
Et ça te fait quoi quand t'as des commentaires
J'aimerais bien avoir cette réponse de grande sage qui dit « je m'en fous, je passe au-dessus ». Mais c'est pas vrai, ça blesse, ça énerve. Parfois, ça me fait rire parce que c'est tellement méchant et aigri vraiment que j'imagine...
Oui, ça devient ridicule.
Ça devient ridicule et j'imagine la personne. Et souvent, ce que je fais, c'est que je réponds extrêmement gentiment. Et ça arrive souvent que les gens derrière s'excusent et disent « ah oui, pardon, j'y suis allée un peu durement ». Et deviennent hyper sympas après parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'on leur réponde et en fait ils veulent de l'attention j'imagine en faisant ça et quand c'est un truc justifié je réponds toujours en disant merci parce que parfois des gens me disent on dit pas palier A, on dit palier et tout de suite le mot
on dit pas convoqué.
Oui, ça m'avait énervé, on dit convoqué, j'ai vérifié quand au début j'employais le mot consolatoire parce que justement j'avais tous les synonymes. Ouais. Consolatoire, il est un peu précieux comme mot mais moi j'aime bien certains mots précieux et tout le monde me disait ça existe pas consolatoire. Mais si, c'est dans le littré, c'est magnifique. C'est pas parce que c'est pas beaucoup employé que ça n'existe pas, quoi. Mais on me le disait avec véhémence.
Ah, ok. Parce que pourquoi le dire de manière polie ?
Ouais, bah oui.
Est-ce que, de manière générale, t'as besoin de validation ?
Je pense que je suis ambiguë par rapport à ça. J'imagine que comme tout le monde, oui, on est toujours content. Pas de la validation, mais de l'approbation peut-être, de se dire qu'on n'est pas fou quand on veut aller dans une direction, de voir que ça plaît à certaines personnes. Parce que déjà, quand on fait une émission, c'est pour les auditeurs, c'est pas pour soi. Donc oui, je veux dire oui, si, ça me fait hyper plaisir que l'émission marche autant, qu'il y ait autant de gens qui l'écoutent. Donc ça veut dire que je suis sensible au fait que ça plaise. Donc ça doit être de la vanité, je sais pas, j'ai pas envie de décortiquer trop loin ça, parce que je sens que ça va pas me plaire. Mais sinon... En fait, bizarrement, je me suis interdite, par exemple, de changer les choses en fonction de l'audience. C'est-à-dire que l'émission, je l'ai vraiment mise sur un papier parce que ça me plaisait à moi et que je me suis dit que ça pourra peut-être plaire à des gens. Mais en tout cas, moi, ça m'éclaterait de faire ça. Et donc, en ça, j'avais pas besoin de validation. Après, on a besoin de validation, sinon l'émission serait pas à l'antenne et tout ça, mais ça, c'est technique, mais... Mais par exemple, je me suis jamais dit quand les audiences baissaient « Ah, qu'est-ce que je fais mal ? Il faut absolument que je mette plus de stars du rock ou je sais pas quoi. » Enfin, ouais. je me dis si ça a parlé à autant de monde, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dedans. Il faut surtout pas s'adapter aux modes. Par exemple, j'ai jamais été à la mode dans rien. Enfin, je dis pas ça comme une posture et tout ça. Vraiment, c'est même parfois, ça fait que je suis vraiment has-been, quoi. Enfin, sans doute, je sais pas, mais... Je suis pas les modes, je suis pas les tendances et donc j'imagine que ça veut dire que je suis pas totalement perméable à la validation puisque sinon je regarderais ce qui marche, je regarderais de quoi on parle en ce moment et tout ça.
Tu travailles beaucoup ?
Trop.
Trop.
T'as jamais la flemme de travailler ?
Si, totalement, toutes les semaines.
Donc t'as la flemme et tu culpabilises en permanence ?
Ouais.
Ok.
Non mais vraiment, mais c'est parce que tu connais ce sentiment que tu me demandes.
Toutes mes questions ne sont que projections.
Oui. Oui, vraiment, c'est un truc que je ressens.
Mais je pensais que t'allais me répondre non, par contre. Je pensais que t'avais, justement, la flemme n'existait pas.
Ah non, pas du tout. Je suis une énorme paresseuse et ça, je crois que ça va ensemble. Souvent, il y a beaucoup de paresseux qui travaillent comme des fous parce qu'ils savent, ça va tellement leur coûter, en fait. Tellement, ils le savent qu'ils s'en débarrassent, en fait. Ils se disent, bon, allez, j'y vais. Parce que plus je vais attendre et plus ça va être horrible.
Ah, donc toi, t'as quand même eu ce déclic. Parce que...
Non, c'est pas vrai. J'attends toujours le dernier moment. Je fais jamais rien en avance. Je me retrouve à chaque fois à terminer un livre ou un truc à 3h du mat. Non, c'est... Non, j'arrive pas. Non, c'est horrible. je suis flemmarde et pourtant je travaille trop. J'ai pas l'explication.
Tu fais quoi pour éviter de procrastiner ?
Je procrastine énormément. J'ai pas de technique pour éviter de procrastiner. En fait, je procrastine énormément jusqu'à ce que vraiment j'arrive à un moment où c'est plus possible. En fait, techniquement, j'aurais plus le temps pour faire tout ce que je dois faire et je le fais. Tu fais pas comme ça ?
Ça dépend. J'essaye de... Bah si. Mais j'essaye de me rendre compte de plus en plus de tout le temps de cerveau que ça me prend d'angoisser pour le fait que j'aurais pas assez de temps pour le faire. Et tandis que des fois, il y a des trucs, je les laisse pendant des jours, je culpabilise pendant des jours alors que ça m'aurait pris une heure.
Ouais,
et
vrai.
Donc j'essaye de me rendre compte de ça, mais ça marche assez peu,
oui,
je t'avoue.
Je te rejoins totalement sur comprendre une idée intellectuellement et être incapable de l'appliquer. Moi, je pense qu'intellectuellement, j'ai le secret du bonheur. J'arriverai jamais à l'appliquer, jamais.
C'est quoi ?
Je pense que si tout le monde avait un groupe social auquel il appartenait, ça peut être même un groupe de passion autour des étoiles ou un groupe... je veux dire, juste être en contact avec d'autres gens. Ça, c'est très important de pas être esselé totalement dans la vie. Mangez bien, dormez bien et faisait du sport régulièrement. Déjà, si on avait tous cette base qui est... Je veux dire, c'est débile, tout le monde le sait, ça. Je donne la base et j'en suis incapable.
Ouais,
et
tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Ouais.
Et peut-être méditer, il paraît que quand on médite, ça fait des trucs, des ondes gamma, je sais pas quoi, dans le cerveau. Mais...
Donc tu ne médites pas ?
Non, j'essaye, j'ai téléchargé une application.
Genre Petit Bambou ou un truc ?
Non, parce que c'est payant mais et que je connais mon assiduité qui n'est pas... Mais non, il y en a une qui est super, qui s'appelle Inside Timer. Et c'est gratuit.
Ok.
Il y a des méditations de toutes les durées, dans toutes les langues.
Tu l'as fait en quelle langue, vu que t'en parles mille ?
Je l'ai fait en anglais, parce qu'il y avait le plus de méditations en anglais et en français, mais franchement, je dois le faire une fois par mois quand j'y pense. Pendant 5 minutes.
Ok.
Mais là, j'essaie de respirer par le ventre, parce que je fais des crises d'angoisse tout le temps.
Sérieux ?
Ouais, si ça me donne envie de vomir.
Oh, fuck.
Ouais, fuck.
Ah ouais, non,
comme disent les Espagnols. Merci d'avoir rigolé à cette blague qui était vraiment pas ma meilleure. Et oui, j'ai en fait vraiment. Et je sais pas, j'angoisse pour un rien et d'un coup j'ai envie de vomir, je vomis pas. Et
merci.
C'est vraiment l'interview confidence. Interview intime sur le divan. Tu mettras ça en exergue.
Ouais.
Je ne vomis pas, tu es très douée. Non, et ça j'ai un vrai problème. Donc si jamais des gens nous écoutent et ont la solution pour ça, ça m'intéresserait vraiment de recevoir des réponses sur
pour
Twitter.
Les crises d'angoisse ?
Ouais, parce que j'ai regardé, les gens disent faites de la méditation, tout ça, mais en fait, moi, ça m'angoisse parce que comme on respire par le ventre, du coup, on sent encore plus la zone du ventre et les organes, et j'ai encore plus envie de vomir, du coup.
Ça dépend ce que t'appelles crise d'angoisse. Est-ce que crise d'angoisse, c'est type je vais mourir, genre physiquement, je sens que je suis en train de mourir ? Ou est-ce que c'est genre...
Bah, ça se manifeste différemment chez les gens. Il y a des gens qui... Leur crise d'angoisse, c'est vraiment au niveau du cœur, par exemple. Mmh. Et moi, c'est vraiment d'un coup, j'ai la nausée terriblement.
Ok.
Et ça dure en général 20 minutes. Après, je me calme. Et ça n'arrive jamais, jamais quand je suis calme, par exemple. Mmh. Jamais. Et donc, je sais même pas pourquoi j'ai atterri sur ça.
Je sais plus non plus, j'étais en train d'essayer de réfléchir à ma question de base.
J'ai jamais dit autant de trucs sur moi dans une interview de toute ma vie entière, parce que je suis hyper pudique. Mais en fait, là, il faut dire quand même pour les gens qui écoutent qu'on est dans un café. Il n'y a personne. Et donc, ça prête vraiment à la... confidence.
Eh bien, écoute, c'est cool.
Ouais, mais je sais pas si c'est cool.
Moi, je sais pas, je trouve, parce que quand t'entends... Qui t'impressionne ? Enfin, qui t'impressionne assez pour que t'aies envie de l'impressionner ?
C'est une bonne question. Bah, tous les gens qui m'impressionnent. Là, j'ai pas vraiment de gens en particulier, mais j'imagine que quand quelqu'un nous impressionne, on a envie de l'impressionner, non ?
Il y a des gens chez qui c'est pas systématique.
Je pense pas que ce soit systématique, mais j'imagine... Je sais pas, j'imagine si je rencontrais Stephen King à un dîner, ce qui n'arrivera jamais, je pense. J'aurais envie, peut-être... Enfin non, je suis pas sûre. En fait, il y a deux possibilités. Soit j'aurais mon narcissisme qui prendrait le dessus et je me dirais « Waouh, c'est Stephen King, j'ai trop envie qu'il me trouve super. » Et du coup, j'essaierais de l'impressionner peut-être pendant 2 minutes. Mais en fait, pendant...
Genre en jonglant ?
Ouais, en jonglant avec des animaux.
Mais qui
chantent, évidemment. Mais en te disant ça, en fait, j'en suis de moins en moins convaincue. Et je pense, pour avoir été souvent confrontée à des gens que j'admirais dans des endroits, que en fait, je pense que j'écouterais juste ce qu'il dit. Non, c'est plus, j'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un pour être amie avec lui. J'ai 8 ans et demi, c'est horrible, la cour de récréation, tu dois être mon amie.
I feel you.
Ok.
Ah, totalement.
Oui, c'est plutôt ça. J'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un. Je me dis, ah, elle est super cool, cette fille. D'ailleurs, pas cool, parce que j'aime pas ce mot et je trouve.
Mais non, mais cool, agréable.
Oui, agréable. Ouais. Voilà, une fille que je trouverais super et je me dirais, ah, j'aimerais bien qu'on soit copine. Et elle, j'aurais peut-être envie de l'impressionner 2 minutes pour qu'elle ait envie d'être copine avec moi aussi. Et ça a d'ailleurs peu souvent marché. Mais non, je pense que quelqu'un qui m'impressionnerait comme ça, genre Stephen King ou des trucs comme ça, des gens comme ça, je dirais rien quoi. Je pense que je boirais leurs paroles. Je sais pas. Mais moi, je suis impressionnable facilement. Enfin, dès que quelqu'un est pas moi, ça me passionne quoi. Enfin, non mais c'est vrai. Je suis assez impressionnable, mais je pense pas que j'essaie à tout prix d'impressionner. Mais ça a dû m'arriver quand même, si on est honnête. J'ai pas envie de faire la fille parfaite parce que j'en suis bien loin. Évidemment que j'ai eu des trucs débiles de vanité, d'ego et tout ça, c'est sûr.
T'as quel rapport avec ton ego ?
Non, alors comment est-ce que je pourrais essayer de parler de ça sans aller trop dans la vie intime ? Bah, j'ai un défaut, c'est que je suis hypersensible. Mmh. Donc je me vexe facilement. Mais j'essaie de relativiser autant que je peux. Et j'essaie surtout de me dire que dans la vie en général, les gens, ils s'en foutent des autres. Tout le monde. On est centré sur nous, la plupart du temps, en permanence. Et c'est pour ça que même que j'aime bien la radio, parce que j'adore me plonger dans quelqu'un d'autre, lire son œuvre, lire ce qu'il aime, lire des revues de presse sur lui. Parce que ça sort de soi, justement, ça extrait de soi. Je sais pas quel rapport j'ai avec mon ego. Je sais pas, je suis pas rancunière. Si on me fait un truc mais qu'on s'excuse très vite, c'est oublié en 2 minutes. Et pardonné en 2 minutes.
Je suis désolée de t'avoir envoyé les cheveux.
Pas de problème, tu veux dormir à la maison. Je sais pas, mais j'en ai de l'ego, évidemment. Tout le monde, je pense même que c'est la raison principale du malheur, j'imagine. Mais je suis pas bouddhiste, mais là, je suis en train de tortiller mes doigts en suant de la main parce que je suis mal à l'aise.
Tu veux que je te demande autre chose ?
Non, pas du tout. J'assume parce que j'ai pas la réponse. Ça m'intéresse en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quel rapport t'as, toi, avec ton ego ?
J'en ai énormément. Trop, souvent.
Moi, j'apprécie l'honnêteté.
Je saurais pas le cacher, honnêtement.
Mais ça se voit pas pourtant.
Mais en fait, c'est très contrebalancé parce que j'ai énormément d'ego vis-à-vis de certaines choses. Genre, professionnellement. Je sais que peu de monde peut me reprocher des choses, tu vois. Parce que quand je fais un truc, je le fais bien, because I care.
Wow.
Et donc à ce niveau-là, ouais. Maintenant, en tant que personne, je suis une merde.
Non, arrête de te vanter.
Et genre, tout ce qui est intelligence émotionnelle et tout, j'en ai très très peu. Et donc il m'arrive vraiment de faire des trucs hyper maladroits, vraiment pas...
Par exemple ?
Ouf. Pour moi, si quelque chose ne compte pas, je pars du principe qu'il va pas compter pour les autres. Et du coup, j'ai pas du tout assez d'empathie, tu vois, ce genre de choses.
Ah ouais.
Mais en fait, ça dépend, parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai énormément d'empathie, et pour d'autres, pas du tout, parce que je me rends pas compte que ça compte pour les gens,
tu vois. Quand les gens te disent « ça comptait pour moi, tu m'as brisé le cœur », est-ce que ça te touche ?
Oui, mais j'ai vraiment du mal à accepter que ce truc puisse compter.
Ouais, je sais, mais je comprends très bien. J'ai déjà été confrontée à des gens comme toi, des monstres. Mais oui, en fait, c'est très compliqué parce qu'on a envie de leur expliquer. En fait, ça me touche. Je sais que toi, non, mais ça me touche. Et du coup, le fais pas. Mais ça sert à rien, en fait. C'est impossible d'être heureux dans la société. Non, mais c'est vrai. C'est trop dur. C'est super dur, la communication. C'est super dur. L'amitié, l'amour, c'est tellement dur.
Tu parles beaucoup T'arrives facilement à... Enfin, avec les gens dont t'es proche, t'arrives facilement à leur dire ce genre de choses. Genre, ça, c'était pas cool parce que oui. Ça m'a fait ça
Non. Quand il y a un reproche à faire. Non, je suis nulle. J'ai hyper peur du conflit.
Ah ouais?
Ouais. J'ai peur de blesser les gens tout le temps.
Même si c'est pour un mieux.
Non, mais je finis tout le temps par le faire. Mais j'ai peur de blesser les gens, j'ai peur de les ennuyer. J'ai la hantise de d'ennuyer, en fait. D'être déranger. Par exemple, j'arrive pas à demander des services. C'est un peu nul, hein. Il faut que je travaille sur ça aussi, mais il y a tellement de trucs déjà. Mais si, j'y arrive, mais c'est pas facile parce qu'en fait, la première réaction qu'ont les gens en général, et moi aussi, moi y compris, c'est quand même de se défendre d'abord. Si on te dit t'as merdé quand t'as fait ça, on fait non, mais attends, j'ai fait ça parce que nanana. Alors, au lieu de dire
ça,
tout de suite,
c'est justifié, c'est pas spécialement se braquer.
C'est... Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est ok, je suis désolée, je t'ai blessée, quoi. Je m'en suis pas rendu compte.
Si t'as raison.
Ouais, si t'as raison, mais c'est autre chose. Oui, mais toi, parce que toi, tu penses que t'as raison et que tout le monde est trop sensible et t'emmerdes.
C'est ce que nous psychopathes.
Voilà, okay. Ça. Pas d'empathie.
Découpe des animaux.
Exactement. Haine des chevaux.
Mais la moitié de la population déteste les chevaux.
Non, je te crois pas.
Les seuls gens qui détestent pas les chevaux, c'est les gens qui ont des chevaux en photo de profil sur Facebook et toi.
Moi, j'adore tous les animaux et cette phrase est nulle et tellement premier degré, mais j'assume, je la dis au premier degré, j'adore les animaux. Comme
non,
une
non,
enfant.
Tu adores tous les animaux.
Non, pas les insectes.
C'est ce que t'as dit juste avant.
Mais en fait, je juge les insectes sur leur physique. Donc si un insecte est beau, mais très dangereux, je l'aime bien. Par exemple, j'aime bien les abeilles et les guêpes parce qu'elles sont, belles.
C'est stylé, ouais.
Ouais, mais tous les trucs rampants, gluants et tout ça, non. Même s'ils peuvent pas me faire de mal, non.
Tu penses pas qu'ils sont très beaux à l'intérieur?
Peut-être. Mais je culpabilise quand je les tue. Je les tue pas toujours. Je les tue quand c'est lui ou moi, quoi. Quand on est dans une pièce et que je sais que je vais devoir dormir là et que soit il va rentrer dans ma bouche pendant que
toi
je rêve.
Toi aussi, t'as cette phobie de trucs qui rentrent...
Évidemment, et dans les oreilles. Et après, ouais. Ils font des œufs. Et après, ils font un Center Park à l'intérieur de toi.
Mon mec dit toujours que je suis bizarre quand dès que je passe un truc à des insectes, je mets mes mains sur mon nez, ma bouche, mes oreilles et tout, parce que je suis sûre qu'ils savent qu'ils doivent rentrer dans ma tête.
Ouais, je pense, et d'ailleurs ils m'en ont parlé. C'est pour bientôt, il faut que tu le saches. Prépare-toi.
Ok. Du coup, je me rappelle de nouveau plus de la question de base. Tu disais tantôt que t'étais du 19e siècle. Tu te sens totalement en désaccord avec l'époque ?
Non. Alors, pour une fois, je pense que ça, c'était peut-être une posture. Longtemps, quand les gens ils venaient m'interviewer et qu'ils sortaient un article sur moi, ils disaient « elle vient du 19e siècle ». Et en fait, j'étais assez d'accord avec cette définition, dans le sens où le mémoire que j'écris à la fac, c'était sur Oscar Wilde, c'était sur l'hédonisme dans le portrait de Dorian Gray... Qu'ensuite, je me suis spécialisée vraiment en littérature fin de siècle décadente, que ça va avec le spleen, avec la mélancolie, le mal de vivre, tout ça. Donc ça, c'est un peu mon univers, ce qui m'intéresse le plus, ce avec quoi j'ai le plus d'affinité, en fait. Mais évidemment que je ne suis pas du 19e siècle. Je suis hyper contente d'ailleurs de ne pas l'être, parce que sinon, j'aurais vraiment la syphilis, c'est sûr. Enfin, non, attention, ça ne veut pas dire que j'ai roulé ma bosse, comme on dit partout. Hein. Au contraire, bien
non,
au contraire.
Non, mais demi, ce sera le titre.
Non, mais parce qu'il suffisait d'une fois. Au 19e siècle, il suffisait d'une fois. Bim, la syphilis. Tac, t'as un rhume, on t'ampute. Non. Et ben non, je suis très contente d'être au 21e siècle. Je suis très contente d'avoir des médicaments qui fonctionnent, d'avoir des vaccins, pas pour tout. Attention, je lance pas un débat sur les vaccins. Je suis vraiment contente de ça. Je suis contente qu'on ait des solutions concrètes, que la science ait avancé, ça me rassure. L'isolation des maisons, par exemple, les trois petits cochons, ça pourrait pas exister aujourd'hui. Le loup aurait beau souffler... sur la maison, il se passerait rien.
Non, mais il trouverait d'autres solutions.
Je crois pas.
Peut-être qu'il attendrait comme les gens qui attendent en bas de la maison de la radio.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'habitude, je suis vraiment sympa quand je rencontre des gens que je connais pas. Là, j'avoue que j'étais pas sympa du tout avec
mais
la personne qui m'a attendu en bas de la
maison.
C'est
normal.
Ouais, je sais, mais j'ai encore du mal.
Est-ce que t'es nouveau ? T'es en train de te semi-excuser parce
Non,
que...
je me semi-excuse pas. S'il revient, attention, je suis ceinture noire de karaté et je peux lui faire des prises folles.
About that.
T'as commencé quand ?
C'est pas vrai. En fait, ça, c'était juste pour me vanter. Mais ceinture noire de karaté au Japon, les Japonais disent « Ah bah c'est bon, tu peux commencer à apprendre le karaté. »
Eh ben, t'as commencé de commencer...
Pense que je pourrais pas me défendre parce que j'ai trop peur de tout.
De faire mal aux gens ?
Non, j'ai pas peur de faire mal aux gens. Je me suis déjà battue, mais c'était à l'adolescence, dans la rue. Parce qu'on m'attaquait, hein. J'avais pas provoqué. On m'a attaqué et vraiment, j'ai trouvé ça très désagréable. Et donc, j'ai donné un coup de pied dans un type qui voulait me tripoter. Et y avait un ami à lui qui me tenait le bras droit, un ami à lui qui me tenait le bras gauche, et lui était devant moi et c'était la liberté, quoi. Et en fait, je lui ai balancé un énorme coup de pied dans le ventre. Et il est tombé par terre, il s'y attendait pas du tout. Le problème, c'est qu'il me l'a rendu. Et heureusement, après, ça s'est un peu envenimé, mais on s'est fait sauver par une bande adverse. C'était les gangs des Champs-Élysées. J'avais 14 ans.
Ok. Et du coup... Mais du coup, t'es ceinture noire ou pas ?
Oui, je suis ceinture noire, mais vraiment, je le dis, c'est pas pour faire semblant d'être humble. Vraiment, ceinture noire, c'est le premier dan. C'est... Enfin, déjà, c'est
mais ça, il y a ça des veut années. Quand même dire que t'as eu, ouais, t'as de la rigueur depuis des années.
J'ai arrêté depuis longtemps aussi, hein, donc je suis pas sûre de pouvoir encore me défendre. Mais je sais que quand des amis me font des blagues, par exemple, où ils veulent, je sais pas, attraper ma queue de cheval pour faire poète-poète comme font les amis ou des trucs comme ça.
Personne.
Tout le monde fait ça.
Mais
tous
les amis ont 7 ans.
Oui, c'est vrai. Et ben, j'ai tout de suite des réflexes de karaté de blocage et ça leur fait peur.
J'en suis fait une clé de bras.
Je fais comme ça. On peut pas le décrire à l'antenne.
Elle lève son bras de manière menaçante.
j'ai tout de suite ça, mais je pense que je sais pas. Enfin, de toute façon, il suffit que plusieurs personnes t'attaquent en même temps, tu peux rien faire. Il faut courir. La meilleure chose, c'est quand même de partir en courant et d'éviter au maximum le conflit. Après, si t'es obligé de te battre, je pense que je peux vraiment donner des coups de poing, des coups de coude dans les dents et des coups de pied, c'est sûr. Mais quand on se bat dans la rue, c'est pas du tout comme sur un tatami et ça se termine toujours à terre à un moment puisqu'en fait on t'attrape et donc on est collé et le karaté c'est pas un art martial qui t'apprend à te défendre quand t'es collé, c'est plutôt un art martial à distance moyenne et donc j'aimerais bien faire un art martial où on est par terre et on arrive à s'en sortir quand même. D'ailleurs j'ai regardé des
du
vidéos
MMA ?
Ouais, j'ai regardé des vidéos récemment de j'aime bien regarder des vidéos d'arts martiaux sur comment détruire son adversaire.
Mais il suffit de le détruire psychologiquement.
Oui,
mais tu l'invites dans ton podcast et tu lui demandes quelle est ta blessure d'enfant.
C'est un peu plus long.
Oui, j'avoue. Un peu plus long, mais après, t'as pas de coups, t'as pas de bleu. C'est... En plus, c'est un super enregistrement.
C'est vrai.
Putain, de nouveau. Ça part tellement loin, cette histoire.
Je ne vous facilite pas la tâche.
Ah oui, si, je voulais dire ça. Il y a un sketch de Yannick Demartino, qui est un humoriste canadien. Qui dit j'ai pris un cours de karaté une fois, le cours d'essai, du coup je sais me défendre mais dans des conditions vraiment très spécifiques.
Non mais c'est vrai, je pense que si quelqu'un se met en position kibadachi devant moi et qui me donne un oitsuki jodan
sur un tatami bleu,
oui, et que j'ai mon kimono à ce moment là je pourrais vraiment bloquer sans aucun problème ce coup. Et s'il l'annonce avant en disant oitsuki jodan et qu'il le balance, là oui. Mais okay. Sinon, c'est compliqué.
Ok. Tu disais que t'étais pas en... que tu te sentais pas en désaccord avec l'époque, mais t'as pas l'impression d'être comme Remède à la mélancolie, en fait, un ovni, personne ne... Par exemple, les gens dans les médias, pour l'instant, se sentent toujours obligés de donner leur avis sur des choses un peu polémiques, toujours comme si leur avis... avait été demandé par tout le monde. Et toi, tu le fais jamais, dès que toutes les interviews où on te demande des trucs sur la politique, sur des choses, tu souhaites jamais t'exprimer là-dessus ?
Non, vraiment pas. Parce que déjà, et à nouveau, c'est pas de la fausse humilité, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Je n'ai pas toutes les données. En fait, je pense que d'ailleurs, personne n'a toutes les données. Donc, je ne peux pas exprimer un avis comme ça pertinent sur tiens, il se passe ça. Ben, moi, Eva Buster, je vais vous dire ce que j'en pense. Non, je ne comprends pas vraiment ça. Je suis un peu d'accord avec toi sur tout le monde exprime son avis. Sur les réseaux sociaux, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde a un avis dessus. Tout le monde. Et tout le monde fait un truc sur Twitter pour
Exprimer.
Exprimer ce qu'il ressent, sa hargne, sa colère, son chagrin. J'ai un peu du mal avec ça. Déjà, je suis d'un naturel pudique, donc non, je... Puis surtout, c'est pas ma place, quoi, ni mon devoir. Et on m'a invité récemment à une émission pour parler de Michel Houellebecq, de son dernier roman et de la place des femmes
dedans.
Qui
refuse de venir à ton émission depuis des années.
Oui, enfin, je l'ai pas relancé depuis, hein, mais il m'a juste dit qu'il avait pas de remède à la mélancolie. Je le crois pas totalement.
Mais c'est très drôle comme réponse.
C'est très drôle, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, on aurait pu parler de littérature et de chiens. Et je sais que c'est des choses qui lui apportent de la joie, donc c'est faux. Et peut-être de club échangiste. Mais il aurait été tout seul à en parler, parce que moi, je le connais pas. Mais...
Par contre, au 19e...
au 19e, on faisait ces orgies. Oui, non, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire sur la politique, sur le monde et tout ça. Et puis surtout, j'ai trop d'empathie. Je te le disais tout à l'heure. Et donc, je comprends. J'ai un problème, c'est que je comprends tous les points de vue. Alors, attention. Parce que là... Je sais que quand on dit ce genre de phrase, les gens ils disent « Ah ouais, et tu comprends l'assassin
ouais. ?»
Et non, évidemment, quand c'est extrême, je suis pas d'accord. Je veux dire, ça me révolte et tout ça, bien évidemment. Mais je comprends intellectuellement
ouais.
la démarche.
Mais il y a tellement de choses qui s'expliquent, qui ne s'excusent pas, mais qui s'expliquent.
Oui.
Et les gens font jamais la distinction. Hein.
Non, et j'ai horreur aussi qu'on me dicte ce qu'on doit penser. Il y a ouais. beaucoup de gens, par exemple, surtout dans le milieu culturel, qui sortent des phrases parce qu'ils les ont entendues, simplement. Dans des endroits, dans des magazines ou des journaux.
Des trucs cool.
Oui, où c'est, ils se disent, tiens, ça c'est ma couleur politique, je lis ça, donc je vais penser comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Il faut regarder autant à gauche qu'à droite pour se faire une idée et pour arriver à penser par soi-même. Moi, je veux avoir tous les avis à chaque fois. Par exemple, une fois, on m'a envoyé un numéro de Valeurs Actuelles. J'avais jamais lu Valeurs Actuelles parce que j'adore Houellebecq et il y avait une interview de Houellebecq dedans.
Mm-hmm.
Donc on m'a envoyé ça en PDF. Et je l'ai lu et c'était incroyable quoi, comme journal. J'ai pas d'avis là à vous donner, hein, mais c'était.
Mais quoi, parce que t'as vu tout un pan d'avis que tu ne voyais pas d'habitude ou
si,
parce que
si, c'est des avis que je connais, mais c'était amusant de voir comment ils mettent en page leurs trucs, qui écrit dedans, le genre de publicité qu'il y a dedans. Par exemple, c'est pas du tout ça, les mêmes cibles ou les mêmes objets que dans d'autres magazines. Il y a par exemple des choses, je crois qu'il y avait un truc pour faire des dons pour les tombes de soldats. Enfin, c'est intéressant en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Si on est vraiment curieux du monde, je pense pas qu'on puisse dire je suis curieux du monde, mais comme je suis de gauche, je lis que ça. Bah non, en fait, tu te coupes de toute une partie de pensée. Et justement, si t'es vraiment de gauche, ça veut dire que tu sais aussi ce qui est à l'opposé. Mmh. Et donc, lis-le aussi, en fait, sans le détester d'office. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens de gauche qui pourraient trouver des idées de droite super et inversement, mais qui le diront jamais.
Bah, tout n'est pas manichéen.
Oui, évidemment.
Point de...
Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme phrase hyper cliché Tout n'est pas manichéen.
Oh, ça va. Attends, je propose. Hein. Oui, mais souvent, les gens ont plus d'opinions que de connaissances.
Ah, pas mal.
Ah, thanks.
Pas mal.
Mais j'ai déjà dit plusieurs fois au premier degré.
Ah oui, non, mais, si... oui mais c'est pas mal. Ça peut passer au premier degré.
Ah, cool. Merci. Ouais. Merci. Bah, je suis rassurée. Comment tu gères le fait d'être une personnalité publique ?
Franchement, je le gère assez bien parce que c'est pas. Enfin,
vu que c'est de la radio, t'as l'avantage de
ouais,
pas.
Ouais. Donc je suis pas, j'arrive pas, je fais pas des émeutes quand je me balade quelque part, quoi. On me reconnaît pas dans le métro. Enfin, si c'est arrivé quelques fois, mais à la voix. En fait, je parlais au ouais. téléphone, je disais n'importe quoi, vraiment des choses honteuses. Et il y a quelqu'un qui m'a alpagué, qui m'a dit hey, vous êtes Emma Bussière, non. Et il m'a sauté dessus.
Tu parlais comme ça ?
Ouais, comme ça. Et j'ai eu hyper honte. Et dans des restaurants, ça peut arriver et tout ça, mais franchement, ça va quoi. Je suis pas une rockstar. Hein.
Mais les gens.
Ça, je pense que ce serait horrible à vivre. Je pense que ça doit être horrible à vivre. Ah. J'aimerais pas du tout ouais. ne plus prendre le métro, ne plus pouvoir me balader. Enfin, je sais pas. T'imagines les gens super connus, ils sont dans les magazines et il y a des pages, ils sont comme nous, et on entoure leur auréole de transpiration au fluo ou leur crotte de nez. On fait, ils sont comme nous. C'est horrible! Oh, elle a grossi.
C'est pas ça que j'aurais cité comme exemple, là.
Mais... C'est quoi ?
Mais tout le reste, genre tout.
Ouais, tout, avec qui
tu
sort,
tu peux rien, aucun de tes rapports sociaux sont normaux, tout est biaisé.
Je trouve ça horrible. Vraiment.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent comme s'ils te connaissaient parce que...
Oui. Bah,
et ça t'angoisse ou ça te fait plaisir ?
Ça dépend. Non, la plupart du temps, ça me fait plaisir, c'est plutôt marrant. Mais quand même, j'ai toujours ce truc un peu effrayé de « Ouh là là, attention, ils font une projection sur moi parce qu'ils ont le meilleur de moi dans l'émission. Mmh. » Mais dans la vie, je suis pas du tout... Enfin, je veux dire, je suis comme dans l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le meilleur parce que pendant une heure, je fais attention à d'être poli, de mettre l'invité en valeur, de parler
alors
de choses.
En vrai, tu jures tout le temps.
C'est ça, je suis un chartier. Non, mais en vrai, je veux dire, je suis pétrie d'angoisse. Je suis pas à l'aise dans toutes les situations. C'est difficile d'habiter le monde. Donc,
t'es quasiment pas sur les réseaux sociaux.
Non, c'est exprès.
Par choix ou parce que ça t'intéresse pas?
Par choix. Je suis sur Twitter. On peut me parler sur Twitter, je réponds toujours. Tout le monde me dit, faut absolument que t'aies Instagram. Avec cette voix. Faut absolument que t'aies Instagram. Mais non, je veux pas avoir Instagram. Alors peut-être, attention, peut-être que je vais changer d'avis. Je voulais pas Twitter, j'ai changé d'avis. Mais je trouve que ça prend du temps, que... Et puis que c'est pas le meilleur, en fait. Je veux dire, moi, j'essaie de faire mon boulot aussi bien que je peux pour que les gens passent un bon moment quand ils écoutent l'émission. Après, je leur réponds sur Twitter, mais j'ai pas envie de passer ma vie sur Twitter.
Mais là, tu parles de l'optique des autres, du fait que les autres te le demandent, mais toi, t'as jamais eu envie de... Non.
Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux? Moi, je le fais parce que, en tant que journaliste, j'aime bien mettre les émissions, et j'aime bien mettre, quand je lis un livre que je trouve super, j'aime bien le partager avec les gens, ou un film, ou des trucs comme ça. Je trouve ça chouette, quoi. Mais par exemple, je mets des articles quand il y en a sur l'émission. Mais par exemple, je mets jamais de photos de moi personnelles. Regardez, ma vie est super, j'étais là et tout ça. Ça c'est mon fils. J'ai pas de fils, hein, mais je comprends pas. En fait, tout à l'heure, je te disais que j'avais du mal avec l'exhibitionnisme. Mmh. Je pense pas que tout le monde doit être aussi pudique que moi, bien évidemment. C'est même chouette. Il y a des gens dont j'adore l'exhibitionnisme. Ricky Gervais, par exemple, il me fait hurler de rire. Et heureusement qu'il existe et tout ça, mais... Mmh. Souvent c'est pas super intéressant non plus ce que les gens mettent sur les réseaux, mais j'adore quand les gens mettent un morceau de musique chouette que je découvre grâce à eux. J'adore quand ils parlent d'une pièce ou d'un livre et que ça me donne de la matière à penser en plus. Mais c'est juste que quand, je sais pas, quelqu'un qui prend un selfie et puis il y a tout le monde qui lui répond t'es trop belle,
oui,
ma chérie, je sais
ça...
pas, je sais pas comment réagir à ça, en fait.
Mais... oui, non, ça c'est voilà.
Oui, mais il y en a beaucoup qui...
Ouais, mais d'un côté, tu t'entoures des gens que t'as envie de suivre, donc ce n'est pas aussi...
Non,
ridicule.
Mais il y en a beaucoup dans tous les milieux, toutes les couches sociales, vraiment, vraiment, vraiment partout.
Ok.
On est dans
t'as stalké assez pour savoir que tu détestais ça.
Peut-être. On est dans un siècle très, très narcissique, vraiment. On l'est tous un peu naturellement, mais je veux dire surtout en Occident, mais on est dans un siècle vraiment où... C'est comme s'il y avait une voix off qui commentait sa vie en permanence. Déjà, sa vie, elle est super difficile à mener et tout ça. On va pas la mettre en scène en permanence, quoi. Je sais pas. Je crois que les seuls trucs intimes que j'ai partagés, c'est toujours des coups de cœur culturels. Mais sinon, c'est des trucs que je trouve marrants et je me dis ça pourra peut-être faire rire quelqu'un et donc lui faire passer un bon moment pendant quelques secondes. Ou par exemple, je prépare une émission, puis il y a plein de livres sur ma table et je mets cette photo. Mais c'est le grand maximum de ce qu'il y aura de ma vie privée. Surtout, ma vie privée, elle n'a aucun intérêt. Je veux dire, la plupart du temps, je suis sur un canapé en train de rédiger une émission et je deviens le canapé et j'ai tellement mal aux fesses d'être tout le temps dans la même position que je dois changer de position sur le canapé. C'est nul. C'est nul, vraiment. Je suis pas une grande voyageuse.
Pourquoi ? Parce que j'ai vu que donc, tu parles plein de langues, t'aimes bien plein de choses.
Je pars souvent toute seule dans des villes pas trop loin en train.
Ok.
Mais sinon, je suis pas une grande voyageuse. Je vais pas loin, quoi. Parce que déjà, j'ai trop peur et j'ai...
De quoi t'as peur ?
Des maladies tropicales. j'ai des amis, je suis allée en Inde, j'ai attrapé la dengue. Je suis allée me baigner dans un lac, j'ai perdu une jambe. si, vraiment, non, mais je l'invente pas. Et ça me fait hyper peur. Donc moi, déjà, quand je vais à Biorel, dans la banlieue de Rouen, j'ai l'impression d'être dans un pays tropical. J'adore voyager. En fait, il y a... plein de villes super pas loin, donc j'ai pas besoin d'aller...
Et qu'est-ce que t'aimes dans le fait de partir seule, le fait de voir d'autres endroits ou le fait d'être seule ? Loin ?
Je trouve que ça permet de se retrouver, parce qu'on passe la plupart du temps à se fuir quand même, souvent, sauf les gens très sages qui font de la méditation et tout ça, nanana, mais bon, souvent quand même on est dans un truc de fuite. Dans la fête, dans l'alcool, dans... je sais pas, il y a des gens... j'imagine les rapports sexuels effrénés, tout ça. Toutes les choses, en fait, qui sont un plaisir à la base, mais dès que c'est dans l'excès, on n'en a pas besoin à ce point-là. Mm-hmm. Et d'un coup, on est tout seul. C'est horrible. C'est toujours horrible au début quand je pars toute seule. Et pendant 2 jours, j'ai envie de mourir. Et après, je suis bercée par le fait d'être dans un autre environnement, de marcher beaucoup. Et c'est super agréable, en fait. Et ça permet de penser à des choses auxquelles on n'a pas le temps de penser quand on est dans son cadre de travail habituel.
Tu citais Ricky Gervais. T'as vu Afterlife ?
Je suis en train de le regarder.
Ok. Ok.
J'ai la blague sur les taches, que dire que toutes les taches sur des murs ressemblent à Kenneth Branagh m'a vraiment fait rire.
Ce qui me fait le plus rire dans Remède à la mélancolie, c'est tes blagues qui foirent.
Parce qu'il y en a beaucoup.
Parce que non seulement je les trouve drôles souvent, on est peut-être deux là, mais surtout le fait que vous le coupiez pas au montage.
Non, jamais.
Et le fait que genre, ce soit totalement assumé, je trouve ça encore plus hilarant.
Parce qu'en fait, j'aime bien quand ça foire. J'aime bien. Et j'aime bien montrer aux gens aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que l'émission touche autant de gens. C'est qu'on est dans l'échec assez souvent, en tant qu'être humain. C'est normal. Et qu'on est tout le temps en train de nous montrer une société où on devrait être parfait, hyper beau, faire des selfies, manger des trucs super bizarres. Et en fait, non, c'est pas vrai, en fait. La plupart du temps, on se nourrit super mal, on est hyper triste, on se sent rejeté, on se sent seul au monde, on se sent incompris. Et je dis « on » parce que là, pour le coup, je sais que ça concerne beaucoup de monde. Et c'est nul, quoi. Et on va aux urgences parce qu'on voit flou, et on passe toute la soirée aux urgences. Bon, là, je parle de moi. Alors qu'en fait, et on pense qu'on a une maladie neurologique, alors que non, on est juste fatigué. Et la vie, elle est composée de trucs comme ça, la plupart du temps. Et donc, en fait, quand je fais des blagues et que c'est nul et que personne rigole, évidemment que j'aurais préféré que l'invité y rigole, évidemment. Mais je trouve ça bien aussi. J'aime bien montrer les coulisses, les défauts, ce qui fonctionne pas, le à côté, le à peu près. J'aime bien, je trouve que ça décomplexe, en fait.
T'as pas peur de l'échec ?
Bien sûr que j'ai peur de l'échec. J'ai hyper peur de l'échec. Mais je trouve ça pire de montrer que de la victoire, du succès et du... grâce au développement personnel, je suis hyper bien dans ma vie et ma relation est géniale avec tout le monde. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, là, je suis énervée quand même.
Tu veux taper ton poing sur la table ?
Ouais. C'est un truc de libéralisme économique où on dubrise presque, où on pense que comme on a accès à tout et pareil en amour, en amitié, en possession matérielle, on se dit je pourrais avoir mieux. Donc pourquoi je garde ce truc pas terrible ? Mais en fait, ce truc pas terrible, peut-être qu'il est super et que oui, ça demande du travail. Et en fait, on refuse le travail, on refuse les efforts. On veut que tout soit super tout de suite, sans effort. Et c'est pas vrai. En fait, tout demande des efforts. Tout demande des efforts. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer. Mais je crois pas du tout au truc comme ça.
De quel effort t'es le plus fière ?
Je crois que c'est quand j'ai eu mon permis de conduire en 1932 et que j'ai jamais reconduit depuis. Ce qui me fait faire des cauchemars où je conduis et je suis trop contente pendant tout le cauchemar. Enfin, c'est un rêve d'ailleurs. Et après, quand je me réveille, je suis hyper triste parce que je sais pas conduire.
Mais t'as quand même ton permis.
Oui, et c'était vraiment pas gagné du tout.
C'était il y a combien de temps pour de vrai ?
Il y a très 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 longtemps, je sais plus. Je sais pas, j'avais la vingtaine, je sais pas, c'était il y a plus de 10 ans. J'avais fait ça pour faire plaisir à mon père, mais il faudrait que je reprenne des leçons, mais ça coûte tellement cher. Il faudrait que j'aille conduire sur un parking en banlieue avec quelqu'un qui a une voiture, mais je sais pas.
Eh bien, si quelqu'un...
Non, je vais peut-être demander à un ami quand même. Ouais. Ouais, je vais le dire, mais je l'ai déjà dit dans une interview, donc je le dis dans l'espoir que peut-être ça parle à quelqu'un. Sinon, je l'aurais pas dit par pudeur, mais avoir arrêté de boire. J'ai arrêté il y a 5 ans. J'ai arrêté... le 21 mars 2014. Et ben ça, ouais, j'en suis fière. Vraiment.
Pourquoi t'as arrêté ?
Parce que je buvais trop. J'aimais trop l'ivresse. Je ne sais pas me modérer. Je sais pas.
Ok. Pourquoi t'aimais l'ivresse ? Parce que la fuite ?
Oui, la fuite, ne pas ressentir les choses, donc ne pas ressentir la douleur, ne pas ressentir les complexes qu'on a, la honte, donc être hyper à l'aise avec des gens, puisqu'on n'a plus trop conscience de soi, et donc avoir des communions fictives avec le reste de l'humanité, penser qu'on est aimé, penser qu'on s'aime. Tout ça, en fait, c'est parce que l'alcool, ça fait tout ça, l'ivresse en général. On se dit tout est possible. Quand je réfléchis, je suis très pessimiste et mon champ des possibles, j'ai l'impression que c'est un petit point. Mais quand on boit de l'alcool, on a l'impression que tout est possible. Et l'euphorie qu'il y a... Enfin, il ne faut pas que j'en parle trop parce qu'après, j'ai envie de boire. Mais... Non, ça, je suis contente de ça, vraiment. Et ma vie s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai arrêté de boire. Donc, ça, c'est, attention, c'est la minute propagande. Mais si vous avez un problème d'alcool... Non, m'écrivez pas sur Twitter. Mais
ne l'attendez pas en bas de la maison de la radio.
Ne m'attendez pas en bas de la maison de la radio. Sachez vraiment que je suis paranoïaque et que je risque de vous attaquer à cause de mon karaté sans faire exprès, en fait. Même si vous êtes gentil. La peur rend violente, sachez-le.
Du coup, amenez-lui peut-être un petit cadeau, genre vos cheveux.
Non, pas les cheveux. Pas les cheveux. Non, mais je veux dire, il y a des... Vraiment... Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool et qui le savent pas.
Mmh.
Et moi, j'ai aucun jugement moral sur les gens qui se défoncent, vraiment. Si quelqu'un me dit j'adore me mettre des mines, j'adore ça et ça me rend plus heureux, ok, super. Vraiment, je lui dirais pas, mais c'est pas bien, blablabla, ça m'intéresse pas. En revanche, s'il me dit ça m'handicape vraiment, j'ai du mal à me réveiller, je me sens super mal. J'ai foiré mon entretien la dernière fois, je sais pas quoi. Bon, bah là, je lui dirais, bah, peut-être qu'il faut que t'arrêtes de boire, je sais pas. J'ai pas de morale à faire, en fait. J'ai pas la solution à nouveau, je le dis, mais c'est juste que, voilà, moi j'ai arrêté parce que je buvais trop et ma vie s'est améliorée, donc c'était mon moment en prosélyte, mais ce sera le seul. Si je pouvais boire encore, et modérément, je boirais tout le temps. Enfin, d'ailleurs, ça va pas, c'est un peu contradictoire.
Ouais.
Non, mais je veux dire, ça me manque. J'aimerais bien pouvoir boire comme tout le monde, okay. Mais j'en suis incapable.
Ok. T'écris beaucoup ?
Oui.
T'écris quoi ?
J'écris...
Est-ce que t'as genre 18 romans dans un placard ?
Non, pas du tout. J'ai pas du tout 18 romans dans un placard. J'ai sans doute 18 nouvelles dans un placard.
Tu pourrais écrire une comédie ?
En film, en quoi ?
Moi, l'exemple que j'avais en tête, c'est Fleabag.
Ah, on m'a parlé de cette série, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la voir.
Oui, fais-le. Vraiment, c'est... En fait, il y a certains trucs où tu me fais penser à Phoebe Waller-Bridge qui l'a écrite et qui joue le personnage principal. Et qui... En fait, cette histoire est tragique, mais c'est tellement drôle et tellement brillant. Et du coup, c'est le genre de choses que je t'imaginais faire, en fait. Un truc qui, dans le fond, est très sombre, mais avec des petits coups de génie extrêmement drôles.
Bah écoute, c'est très flatteur. Je sais pas, j'y... Ça m'amuserait d'écrire une série, ouais. Mais je suis pas sûre que je pourrais jouer dedans, par contre. Mais avec... je mettrais Laure Grand-Besançon, mon assistante, dans le rôle principal, parce qu'elle vient du théâtre, et qu'elle est très rigolote, et qu'elle a un charme fou. Mais... Non, je sais pas. Pourquoi pas. Mais c'est... En fait, on se dit toujours, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et tout prend tellement de temps, en fait. Mmh. Tout prend du temps. Donc, en fait, faut prendre un projet et le faire.
J'aimerais bien terminer par... te poser 5 questions que t'as posées dans l'émission, mais sans aucun contexte. Okay. Parce que je trouve ça très drôle, l'absence de contexte.
Et je peux répondre n'importe quoi ?
Tu réponds ce que tu veux.
Ok.
Bon, mais celle-là, on en a vaguement parlé. Comment est-ce qu'on touche des états d'euphorie ou cette chose que l'on a inventée qui s'appelle l'absolu sans paradis artificiel ?
Bah, je cherche encore.
Comment chatouille-t-on bien ?
Chatouille-t-on bien ?
Comment chatouille-t-on bien ?
C'est vrai, j'ai posé cette question.
À Antonin...
Artaud ?
Peredjatko.
Peredjatko, ouais.
Ouais.
Je pense que chatouiller est un acte de traîtrise envers l'autre, donc on peut pas bien chatouiller. J'ai horreur des chatouilles, je trouve ça horrible.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rendez-vous avec vous-même ?
Oui, beaucoup trop. J'aimerais qu'il y ait d'autres gens parfois. Mais je pense qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on croit à parler tout seul.
Eh ben, on devrait briser ce tabou.
Ouais. Parce que j'en parlais hier soir avec un ami à moi au téléphone, justement. Il me disait qu'il parlait tout seul.
T'es sûr que t'avais un téléphone, du coup ?
Non. Est-ce qu'un téléphone a des lacets ?
Oui. Mais il ne sait pas les faire.
Ok.
Quels sont vos rapports avec le réel ?
Oh là là, pas terrible, hein. J'essaie vraiment de toutes mes forces. J'essaie d'être nietzschéenne, de lire Clément Rosset qui parle de la cruauté du réel et qui dit qu'il n'y a rien d'autre, de toute façon il n'y a que le réel, donc ça sert à rien de l'éviter, tout le monde essaye de l'éviter. Mais il dit aussi que si on y accédait vraiment au réel, on en mourrait peut-être, tellement il est cruel. Donc il n'y a pas de solution en fait.
Mais peut-être on va mourir de toute façon donc.
Oui, mais peut-être que les fictions qu'on s'invente, c'est le réel, autant que le réel, je sais pas, je suis en train de faire Inception là, mais le réel, non, le réel, là j'ai un dégât des eaux chez moi, et bah rien que prononcer ce mot, qui est totalement du réel, me mérisse tous les poils, c'est très ennuyeux quoi. Je préfère parler de d'animaux qui chantent que de dégâts des eaux. C'est horrible en fait, ça me déprime le réel. Mais c'est pas vrai en fait, non, c'est parce que je fais des cauchemars beaucoup beaucoup. Et quand je me réveille le matin, penser à des trucs du réel et voir le réel me rassure énormément.
Ok.
Par exemple, il pourrait y avoir beaucoup plus de tueurs en série que ce qu'il y a en statistique. Il y en a quand même
sûrement.
Non, mais il y en a une minorité par rapport à la population. Ça veut donc dire que la majorité absolue de la population est plutôt équilibrée.
Ou a juste trop peur d'aller en prison.
Ouais, mais tant mieux. C'est comme le suicide, en fait. Je me dis toujours, tant mieux que ça puisse se faire que dans la violence. Parce que sinon, tout le monde le ferait toutes les 5 minutes, quoi. On dirait un truc vexant. Oui, une fois.
Le saucisson parfait, où et avec qui? C'était avec Bertrand Blier.
Ah ouais. Le saucisson parfait. Alors là, vraiment, le saucisson parfait, dès qu'on a envie de saucisson n'importe quand, en fait. Vraiment à n'importe quelle heure, même après du Nutella ou des cornichons, ça m'est déjà arrivé. J'adore ça. Avec un ami, n'importe où. Avec quelqu'un qu'on aime. Même avec n'importe qui, en fait. Même avec un toxico de Bastille. Non, vraiment, partout, quoi. C'est trop bien, le saucisson.
Mais écoute, j'ai envie de terminer avec ça.
Ok.
Merci.
De rien, merci beaucoup pour l'invitation.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et puis, pour être tenu au courant des prochains numéros des Gens qui doutent, vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée ou me suivre sur les réseaux sociaux Fanny Ruet. Toutes les références qui ont été faites dans cet épisode, Ricky Gervais, Fleabag, le livre Remède à la mélancolie, tout ça est listé en description. Et j'ai aussi mis tous les liens, bien sûr, pour suivre Eva Bester et l'écouter chaque dimanche. Bisous!